Vous écoutez
RMC. Les grandes gueules du sport passent la seconde.
L'acceptation. Quand dans la vie tu vis une épreuve, de quelle manière il va falloir faire le deuil? Et puis, c'est quoi en fin de compte le deuil d'une chose? C'est l'acceptation.
C'est incroyable que vous êtes restés. Quelle heure sont 13h matin. Beaucoup de les enfants. Tu dois dormir, mon ami. Qu'est-ce que tu fais ici?
C'est devoir accepter ce qu'on est en train de vivre. Et ça, c'est que des mots. C'est facile. Le vivre, c'est autre chose.
J'ai pas vu le même joueur, moi. J'ai vu quelqu'un qui se débarrassait de la balle, qui tentait des amortis. On avait l'impression qu'il était ailleurs, qu'il subissait tout ce qui se passait.
Il faut savoir aller au bout de quelque chose quand c'est pas encore fini. Peu importe le domaine. Mais quand quelque chose est terminé, quand il y a le coup de sifflet final, c'est fini.
L'annonce est tombée à 16h48. Lésion au ménisque médial du genou droit pour Novak Djokovic. Roland Garros est en quelque sorte orphelin.
Et celui qui arrivera à passer à autre chose, c'est cette acceptation qu'il aura accomplie.
Sous aucun prétexte, je n'ai
okay. Ah, comment te dire adieu? On ne sait pas si Novak Djokovic boit de la Contrex, évidemment. Mais comment te dire adieu? C'est une question que l'on pourrait peut-être bientôt se poser. Il y a 10 jours, Novak Djokovic avait dû renoncer, vous l'avez entendu, à son quart de finale de Roland-Garros à la suite d'une blessure au genou. Quelques jours plus tard, Carlos Alcaraz en avait profité pour prendre le pouvoir. Jamais le Serbe n'a connu une saison aussi galère, qui contraste évidemment avec sa saison 2023. Exceptionnelle, éblouissante, où il avait remporté 3 grands chelems sur 4. À 37 ans, Novak Djokovic, possiblement forfait pour Wimbledon, pourrait traverser une saison blanche, lui, l'homme aux 24 grands chelems. La musique qui fout les jetons est cette question. L'ère Djoko est-elle terminée? Oui ou non? Simon Dutin.
Je le crains, Jean-Christophe.
C'est donc un oui.
Oui.
Marie Martineau.
Mais je suis déçue, je trouve qu'il a du flair d'habitude, notre ami Dutin, mais alors je pense pas du tout.
C'est non.
Non.
Julien Beneteau.
Entre Simon et Marie.
Non, faut répondre, pas une de Charles. Tu penches plutôt du côté oui ou du côté non?
Pas encore, c'est pas encore la fin de.
C'est pas encore la. Oui, bah oui, à 37 ans, ça va bientôt arriver. Merci, Julien. Je pense que tu peux le convaincre, Simon. Attaque-toi, Julien. Marion Bartoli, oui ou non?
Non.
Non, ah oui, elle n'aime pas cette
en
question,
fait,
je sais.
Ça dépend comment on définit l'air. Djokovic.
Très bien.
Ça.
Et comment on l'écrit aussi.
Oui,
ça n'a rien à voir. Avant de débattre, on va retrouver notre spécialiste tennis, Eric Salio. Salut Eric.
Salut les grandes gueules.
Je ne savais pas qui était
spécialiste. Salut Eric. Oui,
moi non plus. Bon, on retrouve Eric Salio. Voilà, c'est plus simple. Eric, comment va Novak Djokovic?
Ça fait 4 saisons que j'ai envie de le dire, mais j'ose pas.
Comment va Novak?
Écoutez, Novak Djokovic semble se rétablir plus vite que le commun des mortels. Ça ne va sûrement pas vous surprendre. Il faut dire qu'il n'a pas tardé à accepter l'opération du ménisque du genou droit qu'il avait tant fait souffrir en huitième de finale face à Cerundolo. Le 5 juin, il a fait confiance au professeur Jérôme Etta, un quart d'heure sur le billard pour sauver une saison mal embarquée. Et vendredi dernier, une vidéo sur ses réseaux sociaux montrait qu'il retravaillait dans une salle de gym à Belgrade. Vélo, étirement, flexion, travail d'équilibre. Le Serbe met les bouchées doubles. Il est toujours inscrit à Wimbledon, qui débute le 1er juillet. Mais s'il est trop juste pour le gazon anglais, il sera forcément opérationnel pour les Jeux Olympiques où il retrouvera Rafael Nadal qui a programmé le tour de Bostad en Suède pour préparer le deuxième grand rendez-vous sur la terre battue parisienne.
Et on remercie Eric pour toutes ces dernières informations. Vous l'aurez compris, il ne peut pas se défendre, le pauvre. C'était enregistré. Il nous avait laissé ce petit bonbon pour les dernières informations sur Novak Djokovic. Et vous, comme ça, vous arrivez et vous le taillez. Il m'a appelé, il est furieux. Eric, si tu veux, si tu nous écoutes et si tu veux nous appeler, tu as le droit à une réponse. L'ère Djoko est-elle terminée? Alors pour qu'on s'entende, vu que tu ne comprends pas cette ère Djoko, eh ben moi je vais te la définir comme ça, c'est-à-dire une ère où Djoko, quand il se présente à un tournoi, il est forcément le grandissime favori. Ou quand tu vas sur le tournoi, tu te dis bah normalement c'est pour Djoko. Est-ce que ça c'est terminé? Est-ce qu'on va revivre ça? C'est notre question.
Alors on peut revivre ça. Grandissime favori, non, parce que les autres ont augmenté le niveau, et notamment Sinner, Alcaraz, de manière énorme. En revanche, au début d'un grand chelem, pour moi, il est toujours dans les deux favoris.
Donc l'ère Djoko n'est pas terminée.
Je sais
que Marion, je vais te donner la parole, mais pas tout de suite, parce que je sais que tu veux dégoupiller, je sais que tu veux t'attaquer à l'édito de cette émission. Il n'y a aucun problème. Mais ouais, d'abord les autres. Marie Martineau, pourquoi non?
Alors parce que j'ai eu la chance, c'était pas prévu, mais j'ai eu la chance d'assister au match les huitièmes à Roland.
Djoko Cerundolo.
Voilà, je devais être sur un night session après, mais on nous a laissé rentrer avant. Et donc en fait, ce match s'est éternisé. Et Et à ce moment-là, on ne savait pas qu'il avait un ménisque éclaté. On a bien compris qu'il a fait un premier set où il était très en forme. Ça fait 6-1. Et derrière,
il se blesse au genou.
Mais ça reste un mec d'une pugnacité incroyable. Et tu sens qu'il est blessé et qu'il est en deçà. Et pour autant, il arrive au bout de son match et il gagne son match. Et ça me fait me dire que si, avec un ménisque en moins, il est encore capable quand même de mettre des gros 7-5 et 6-3 à un gars comme Cerundolo, qui n'est pas non plus un peintre, c'est qu'il a encore de belles années devant lui. Et un ménisque, pour être passé par là, on sait tous que ce n'est pas non plus, c'est pas non plus dramatique sur un mec qui, pour l'instant, n'a fait preuve de très peu de pépins physiques. Je veux dire, ce n'est pas Nadal. Il est quand même encore... OK, il a 37 ans, mais il est quand même très, très en forme.
Ça dépend si c'est le ménisque de l'intérieur ou...
Excellent.
Oh, oui, bien sûr.
Ça, c'était le petit bonbon.
Ça fait quand même beaucoup. Je ne connais pas aussi bien le tennis, évidemment, que mes copains, mais le sport un peu. Et j'ai l'impression qu'on est quand même loin d'être sur une
descente. Oui, et puis en assistant à un événement comme ça, en direct, à une véritable performance, tu t'es dit, OK, Djoko, je vais pas le crépir ce matin. C'est mon Dutin.
Moi, j'ai dit oui parce que tu m'as obligé, parce que sinon il n'y avait pas de débat.
Non, Simon, lâche les infos, tu as raison. Non, mais me mets pas là-dedans parce que les auditeurs vont le croire. Et en plus, ce n'est pas vrai, je n'ai absolument rien dit.
Je précise, c'était une plaisanterie. Non, j'ai pas de boule de cristal et ma première impression, au début, oui, je me disais non, c'est pas fini parce que ce qui se passe en ce moment, c'est à une échelle différente, ce qui s'est passé très souvent en tournoi, c'est-à-dire il est mené 2-7-0, un petit tour au vestiaire, et il revient, il est injouable et il s'impose 3-7-2, tu vois.
Bon, comme c'est caricatural.
Il a raté 2-3 tournois d'affilée, un petit tour chez le docteur, et pourquoi pas imaginer qu'il va revenir et rincer tout le monde. Cela étant dit, c'est plus sur le ressenti. Tu parlais effectivement du mec grandissime favori au début de chaque tournoi. Là, je rejoins Julien sur l'impression donnée par des mecs comme Sinner, Alcaraz, qui, j'ai l'impression, se sont emparés un peu du manche et assument plus que les mois derniers. Peut-être parce que justement, Djoko est plus toujours dans les parages. Ce statut de favori, je rajouterais un Zverev qui a été exceptionnel entre Rome et Roland Garros. Bon, j'ai l'impression que les mecs ont décidé cette fois-ci de prendre le pouvoir et de plus le regarder, tu vois, en contre-plongée, en se disant
qui va aller en finale avec lui, quoi.
Quand est-ce que tu nous laisses la place?
Exactement.
Ils ont décidé de lui prendre la place. Rajoute à ça le fait que t'as un Nadal qui est en tournée d'adieu a priori. Oui, je pense que c'est terminé. En tout cas, des saisons comme il en a fait l'an dernier, c'est terminé et que ça va être un petit peu plus compliqué pour lui de dominer la génération qui pousse derrière.
Et un peu plus disputé. Marion Bartoli, vas-y, on t'écoute.
Alors, je ne suis pas du tout d'accord, mais ça, vous l'aurez compris. Pour moi, sur Novak Djokovic, ce qui s'est passé en début d'année, c'est qu'il n'arrivait plus à trouver la motivation pour se relancer sur une saison où il allait mettre 3-4 grands chelems à tout le monde, parce que, comme le sait très bien Julien, ce qui l'a drivé pendant toutes ces années, c'est d'être devant Roger et d'être devant Rafa, et que finalement, quand il a obtenu ça, c'est extrêmement compliqué derrière de trouver à nouveau la motivation pour aller mettre l'intensité complète tous les jours à l'entraînement. Et malgré ça, il fait quand même demi-finale l'Open d'Australie, alors qu'il est à 50% de son niveau. Il le sait très bien, il est quand même en demi, donc il a une marge sur les autres à partir du moment où il est en mode tournoi du Grand Chelem, qui est extrêmement importante. Et là, Omari a complètement raison, c'est que sur Cerundolo, mais même pas que sur Cerundolo, sur Musetti, quand il va chercher ce fameux match à 3h30 du matin, ou quand on se retourne sur le Roland-Garros qui vient de se terminer, les deux choses que je pense nous restent en tête, enfin les trois, c'est le match de Rafa contre Zverev au premier tour qui a lancé le tournoi, c'est le match Djokovic qu'à 3h30 du matin, et c'est la finale homme. Et ce match jusqu'à 3h30 du matin, quand on regarde avec le peu d'entraînement qu'il a eu avant de venir sur Roland-Garros, le peu de tournoi, le peu de points de repère, le niveau qu'il est encore capable d'avoir quand il le veut vraiment, c'est-à-dire que la motivation pour lui est à son point le plus culminant, il lui reste plus quoi sur les motivations? Aller chercher le record de Margaret Court? Il lui reste un grand chelem? Le nombre de matchs remportés par Roger Federer dans un tournoi du Grand Chelem qui était à 369, il vient de le battre, puisqu'il a eu 370 victoires grâce à son Roland-Garros. Donc, ce qui le motive le plus maintenant, c'est quoi? C'est la médaille d'or aux Jeux Olympiques en simple et c'est le tournoi du Grand Chelem. Et on voit très bien que c'est un autre joueur à partir du moment où il rentre en configuration de tournoi du Grand Chelem et qu'il lui reste, encore une fois et toujours, quand il est à 100% physiquement, une marche sur les autres.
Oui, mais Marion.
Alors, ça n'a pas été le cas sur l'Open d'Australie parce qu'il a eu du mal à se relancer psychologiquement. Donc, c'était dur pour lui de faire une préparation hivernale. Il a fini extrêmement tard avec avec la Coupe Davis qui l'a amené jusqu'à fin décembre. Donc finalement, sa préparation, il n'a quasiment pas eu, parce qu'il n'a eu que 2 semaines pour se préparer à l'Open d'Australie. Et c'est un joueur, que vous l'avez rappelé, qui a 37 ans. Aujourd'hui, le kiné qui lui fait sa rééducation en Serbie, c'est quelqu'un que je connais très bien, c'est un ancien kiné de l'OM, qui s'appelle Jean-Georges Chélier, qui a une immense expérience. Lui, en tout cas, les infos en interne qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup plus de chances qu'il joue Wimbledon qu'il ne le joue pas. Et ça, je peux vous le dire aujourd'hui. Donc,
ce qui serait fou,
arrêtez,
hein,
mais arrêtez déjà de penser qu'il ne va pas jouer Wimbledon. Ça, personne ne le sait aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de chances qu'il le joue qu'il ne le joue pas. Et s'il se présente à Wimbledon étant à 100% de ses capacités physiques, bien sûr qu'il fera partie des deux favoris, comme l'a dit Julien. Donc, de
même
loin.
Le premier pour moi, sur
exactement. De loin, il n'est pas du tout. Mais alors, ce n'est pas du tout la fin de l'ère. Et quand on voit la finale de Roland Garros entre Carlos Alcaraz et Sacha Zverev, qui sont bien évidemment de très grands champions, mais quand on voit le nombre de fautes directes qu'ils pratiquent encore, les crampes d'Alcaraz et de Sinner en demi-finale, dites-moi le nombre de fois où Djokovic a crampé sur des finales sur Federer ou sur des finales sur Nadal qui ont duré plus de 5 heures. Le nombre de fautes effectuées par ces joueurs-là sur des finales de tournoi du Grand Chelem où le niveau est le plus élevé.
Ouais, non, pour l'instant. C'est pour
mais
ça oui. que moi, là-dessus.
Mais c'est pas
non,
mais du tout la fin de l'ère de Djokovic.
On a bien compris, mais moi, je voudrais rebondir sur ce que tu dis. Aller voir Julien, peut-être, parce que oui. La motivation est une donnée importante dans l'ère Djoko. Parce que forcément, si t'en as un peu moins, bah, ça reste du haut niveau. Donc c'est de la mécanique de haute précision.
Oui.
Un peu moins de motivation et donc un peu moins de préparation.
Mais là, il s'est relancé avec ce Roland-Garros.
Alors,
regarde la motivation qu'il avait sur le terrain à Roland. Garros, c'était un autre joueur.
C'est à lecture aussi,
Julien. Un autre
aussi,
joueur,
il
était transfiguré.
Il s'est relancé ou pas? Ou il y a quand même un doute quand même sur sa motivation et ça peut se comprendre quand même.
Non, la motivation, il a... les Jeux Olympiques en ligne de mire forcément et aller chercher un autre grand chelem. Être le seul à être à 25 grands chelems. Il est fait, il veut battre tous les records, il sait que par l'aura, entre guillemets, il n'atteindra pas Nadal ou Federer. Donc il est obligé par les chiffres de les mettre tous d'accord. Il les a mis tous d'accord, il va continuer à le faire. Les Jeux Olympiques lui manquent à son palmarès par rapport à un Nadal ou un Federer qui a gagné en double. Mais pour moi, physiquement, il est prêt. Donc, on va voir comment il récupère de cette opération du ménisque. Encore une fois, je me répète, en Grand Chelem et encore plus à Wimbledon sur gazon, sa science du jeu,
il est favori. Mais bien
sa
sûr,
science
mais
du,
bien
sa
sûr,
science
mais
du
mais
jeu
totalement.
Et sa connaissance et sa constance. Lui,
et sa faculté à se déplacer.
Mais lui, il n'a pas de trous. Alcaraz. Oui. Alors, Sinner, quand il est prêt, il a moins de trous. Mais c'est vrai qu'Alcaraz et Zverev, de temps en temps, dans
ils
un
ont
match,
des trous.
Ils
okay.
ont des gros...
il y a plus de doutes sur eux
exactement.
Que Marie Martineau.
Et alors, une chose dont on n'a pas parlé, et donc, encore une fois, comme j'y étais, j'ai pu en être le témoin, et c'était vraiment impressionnant. Ce dont il a souvent souffert, c'est-à-dire l'amour du public, il s'est passé un truc.
Il
s'est
poussé à Roland-Garros.
Il s'est passé un truc à Roland-Garros.
Folie derrière. Et je pense que ça va le galvaniser.
Il était en train de gagner les cœurs du public.
Vraiment, parce qu'il a fait des
exceptionnels. Mais fallait le voir, ça me fout des frissons. Ouais, il était vraiment en train de gagner. S'il n'a pas été contraint à l'abandon, au forfait, je pense que le public de Roland...
Il pouvait aller en finale.
Et le
mais
public...
était derrière lui.
Il l'a déclaré lui-même.
Sur ce terrain, il finit à 3h du mat, etc.
Exactement.
Ça l'a rendu un peu humain.
Marion, rapidement, et Simon aussi. Vas-y.
Non, pour moi...
Non, mais là-dessus, sur le côté...
Non, mais il l'a dit très clairement.
L'amour du public.
Je l'ai interviewé sur le terrain, après un de ses matchs précédents, avant le match sur Musetti, où il y a eu une interview vraiment hyper sympa. Mais il a toujours été à la recherche de cet amour du public. Et cette année, à Roland-Garros, il s'est vraiment passé un truc. À 3h30 du matin, il l'a déclaré en français lui-même. À 2-2 au 4e set, j'avais l'impression de plus avoir de solution contre Musetti. Je ne trouvais pas la tactique. Je pensais que j'allais perdre ce match. Et vous m'avez aidé à le remporter. Les gens étaient à fond derrière lui jusqu'à 3h30 du matin. Et beaucoup de personnes sont restées. Ils poussaient que pour lui. Il y a eu une ambiance de malade. Conte Rundolo, pareil. Et je pense que ce déclic-là va lui permettre complètement de se dire, ben voilà, là j'ai un bloc où il me reste 2 grands chelems et les Jeux Olympiques à aller chercher. Et sur les 2 grands chelems et les Jeux Olympiques à aller chercher, je veux au moins aller chercher 1 grand chelem et une médaille au jeu. Et là, il est à fond en mission. Il est complètement en mission et je pense qu'il va le faire.
Ok,
je pense
en mission et après rideau. Simon, pour finir.
Non, simplement avec l'élégance qui, comme tu le sais, me caractérise souvent. Je tenais à dire que le tennis que je suis a été convaincu par Julien Benneteau et Marion Bartoli. Je doute.
Tu doutes de ta pensée?
Non, oui,
oh non, faut
non mais il était forcé par JC. Qu'il a vraiment été forcé par JC.
Lionel nous appelle au 32-16. Lionel, bonjour.
Salut tout le monde.
Lionel, je t'ai pas forcé. Tu as un avis, je t'ai pas forcé.
Ah, pas du tout. Hein. En plus, je suis très surpris de s'apprendre que, ça, que notre cher ami puisse être influençable par le maître de cérémonie. Je ne pensais pas ça de lui. Quand même. Bon, déjà, c'est un grand privilège. C'est un grand privilège de pouvoir échanger avec Julien et Marion. Si je pouvais, j'appellerais tous les week-ends pour discuter avec Marion, mais pas que de tennis.
C'est gentil.
Écoutez, déjà, je pense que vous aimez bien faire le buzz. La seule chose qui va pouvoir décider Djokovic à arrêter, c'est les blessures qu'il ne maîtrise pas. Parce que actuellement, je pense que il y a deux joueurs qui ont. On attendait ça depuis longtemps parce que si on enlève Alcaraz et Sinner, tous les autres, ça fait plusieurs années qu'ils sont là. Zverev, il a un potentiel exceptionnel, mais malheureusement, mon pari tient toujours. Il ne gagnera jamais un grand chelem. C'était l'année ou jamais. Si au moment, le problème entre Alcaraz et Sinner, c'est que techniquement, ils ont fait exploser mais tout le monde. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas encore prouvé que quand ils sont dans le dur, ils s'en sortent. Alors, Alcaraz l'a fait l'année dernière à Wimbledon, c'est exceptionnel, il a mis 6 mois pour s'en remettre. Sinner, il est le premier surpris d'avoir gagné l'Australie, alors que même tout le monde sait qu'il va exploser. Maintenant, je pense que si jamais ces gars-là, Sinner, je pense que si le jour où il n'est pas bien, parce que malheureusement, sur un terrain de tennis, dans l'année, on est plus souvent moins bien que bien. C'est d'ailleurs l'oncle de Nadal qui avait bien dit, la différence entre Federer, Djokovic et Nadal, c'est que même les jours où ils ne mettent pas une balle dans le terrain, mais ils gagnent. Et ça, Alcaraz et Sinner, ils n'y sont pas encore là. Djokovic, il rentre sur le terrain. Évidemment que sa motivation, bah c'est un homme, hein. Il a des enfants, il a une famille, il bouge toute l'année, la motivation est la même. Tant que Nadal n'arrêtera pas, Djokovic continuera à être là. Et si Djokovic est là, il ne fait pas de la figuration, il va gagner. Donc moi, je ne suis pas du tout un fan de Djokovic. D'ailleurs, quand Marion parle de Novak, on sent le manque d'objectivité, mais bon, je respecte.
C'est moche.
Tant qu'il sera là.
Lionel, t'étais parfait jusqu'à maintenant, mais là, c'est moche que tu viens de dire. Ouais. Là, franchement,
je me suis pas remis de la déchirure de 9 mm et pour gagner l'Australie, ça, j'arrive pas à m'en remettre. Enfin, bref, tant qu'il sera là, la différence, c'est que des mecs comme Nadal et Djokovic, ils peuvent être malmenés tout match. Ils savent que dans 4 heures, 5 heures, le niveau d'adverse va baisser et que s'il y a une toute petite chance qu'ils reviennent, eux, ils seront là. Là où des Sinner et Alcaraz sont capables de dégoupiller. Alcaraz, la finale à Roland-Garros, il doit la plier en 3-7 parce qu'à un moment donné, il a le match en main et hop, il la laisse s'échapper. Sinner, dès qu'il est Sinner à Monaco, jamais il doit laisser passer le match quand il s'y passe. Djokovic, dans la même configuration, s'il s'y passe, il peut avoir un arbitre ou quoi que ce soit, mais le match, il le plie. Et je pense que ces deux-là, techniquement, ils vont dominer le tennis sur les 10 prochaines années, je ne doute pas du tout. Mais mentalement, il faut qu'ils le prouvent.
Et ils ne sont pas encore prêts. C'est ce que tu veux nous dire. Merci Lionel, tu es bon pour remplacer Eric Salio. On va t'envoyer un contrat. Merci mon cher Lionel, tu as été très bon en tout cas dans les grandes gueules du sport.